s'il n'y a pas d'autres questions, nous allons passer à la dernière intervention de notre journée. Donc j'ai l'immense plaisir de donner la parole à Jean-Claude Monod. Donc il a déjà été beaucoup fait allusion à son travail, et c'est normal, puisque c'est peut-être le...
Merci.
Donc Jean-Claude Monod, je le rappelle, est directeur de recherche au CNRS. Il appartient aux archives Husserl, et il est connu donc, pour ses nombreux travaux sur ces querelles autour de Blumenberg, Schmitt, etc., mais aussi pour des travaux plus larges de philosophie politique. Et donc pour ce soir, en fait, il va nous parler de Blumenberg, et notamment à partir du livre récent de Kurt Flash, qui a été consacré à Blumenberg. Et je le remercie vraiment infiniment d'avoir accepté notre invitation ce soir. Donc le titre exact, c'est « L'absolutisme théologique et ses conséquences imprévues, Hans Blumenberg, Kurt Flash et la sortie du Moyen-Âge ».
C'est moi qui vous remercie pour cette invitation, et je suis évidemment très heureux de participer à une journée d'études sur Blumenberg ici. C'est, je crois, un beau signe de la reconnaissance croissante de la place de ce philosophe singulier, mais majeur, dans la pensée contemporaine. Alors, l'apport d'un livre de philosophie peut sûrement se mesurer de deux façons, au moins. Premièrement, par les idées reçues ou les schémas routinisés que ce livre ébranle. Et deuxièmement, par les perspectives inédites, les hypothèses, les méthodes ou les concepts nouveaux qu'il propose. De ce double point de vue, La légitimité des temps modernes, donc paru en 1966, puis dans une édition vouée à être plusieurs fois profondément remaniée, complétée, refondue, puisque Blumenberg y intègre la réponse aux questions, etc. Donc c'est un livre d'ailleurs dont la difficulté de lecture tient en partie à ce mode de réécriture continuée. Ce livre fut un événement. Sa perception comme événement fut immédiate en Allemagne et plutôt différée en France. Alors, ça a été évoqué tout à l'heure, je crois que s'il fut perçu immédiatement comme événement en Allemagne, et plus difficilement en France, c'est peut-être d'abord parce qu'il attaquait de front un grand schéma d'interprétation de la modernité, et donc de son rapport à ce qui précède, donc au Moyen-Âge, interprétation qui avait effectivement en Allemagne un statut de lieu commun, voire de dogme, l'interprétation de la modernité comme sécularisation du christianisme, ou de toute une série des concepts, des schèmes, des valeurs dits modernes, comme n'étant rien d'autre que des concepts, schèmes ou valeurs religieux, théologiques, principalement chrétiens, sécularisés. C'était là un schéma qui relevait de ce que Blumenberg décrivit comme relevant d'une ontologie de l'histoire substantialiste, où tout est pensé comme l'auto-altération d'une substance, et où de ce fait, toute nouveauté est déniée. Si bien que loin de n'être qu'un instrument descriptif, la catégorie de sécularisation fonctionne comme catégorie de l'illégitimité historique, mettant en cause la prétention des temps modernes à faire rupture, à posséder leurs propres concepts, etc. Or, ce que Blumenberg désigna alors, ironiquement, comme le théorème de la sécularisation, c'est-à-dire Y n'est rien d'autre que X sécularisé, n'avait pas en France le même statut paradigmatique ou topique. Même si on trouve en France, pour citer des exemples très variés, des auteurs d'époque et de style très variés, on trouve chez Tocqueville, chez Edgar Quinet, chez Michelet, ou sur un autre mode au XXe siècle, chez Delubac, chez Jean-Luc Nancy, voire Marcel Gauchet, des formes peut-être de ce théorème de la sécularisation, l'idée d'interpréter le contenu essentiel des temps modernes comme n'étant rien d'autre que le produit d'une sécularisation de théologiens chrétiens reste ici relativement marginale. Sans doute parce qu'elle se heurte en France à un autre grand schéma, sinon à un autre mythe opposé, celui de la rupture nette d'époque, de l'avènement soudain d'une nouvelle époque, inaugurée par un commencement à partir de rien, une refondation radicale, rupture représentée grossièrement au plan philosophique par le doute hyperbolique et l'affirmation du cogito de Descartes, et au plan politique par la Révolution française. Mais la critique d'un schéma d'interprétation de l'histoire et du changement d'époque implique aussi de proposer positivement d'autres hypothèses, d'autres concepts, et c'est ce que fait Blumenberg. Donc d'un côté, il y a cette critique du substantialisme historique, et d'un autre côté, il propose une série d'instruments méthodologiques qui permettent une autre approche des transformations historiques. Ça a été évoqué, je vais rapidement, avec cette notion d'umbesetzung, de redistribution, de réoccupation de fonctions théoriques ou conceptuelles, substituée à la notion d'umsetzung, réalisation ou transposition d'une même substance, ou aussi l'idée d'hypothèque de questions, d'hypothèques de problèmes qu'une époque, qu'un temps lègue à l'époque suivante, et de la pression de problèmes auxquels cette époque ultérieure se sent tenue de répondre, pour en quelque sorte être à la hauteur de ce qui précède, quitte d'ailleurs pour ce faire à oublier ses propres principes. L'extraordinaire application de ce schéma, à mon sens, c'est l'approche des philosophies de l'histoire, qui ne sont pas la sécularisation de formes religieuses ou théologiques antérieures, mais qui réinvestissent une fonction. Mais pour ce faire, elles doivent, en quelque sorte, répondre à une question qui, dans les conditions de la rationalité moderne, devrait plutôt être dissoute, à savoir celle du tout de l'histoire. Il faudrait aussi reconstituer la méthode différentielle par laquelle Blumenberg propose une approche fine de figures qui se situe de part et d'autre d'une frontière d'époque, Nicolas de Cuse et Giordano Bruno, par où l'on peut mesurer ce qui les sépare, l'événement copernicien, non pas lu à même cet événement, où il tend à se dissoudre, l'événement copernicien ne peut être proprement saisi que dans ses effets pour Blumenberg, mais justement en tant que frontière, en tant que l'après se distingue ici de l'avant. Enfin, ce sera mon objet, Blumenberg, même s'il en a été déjà beaucoup question, donc je m'excuse, il y aura des redondances, Blumenberg avance une interprétation propre du changement d'époque, les temps modernes, sur leur versant philosophique et scientifique, sont approchés comme résultant d'une crise, et deux concepts en vis-à-vis vont nourrir une sorte de contre-récit de la genèse de la modernité, l'absolutisme théologique, porté à son comble à la fin de du Moyen-Âge, et l'auto-affirmation humaine, qui est passé en particulier par la réhabilitation de la curiosité théorique après sa disqualification ou son inscription au catalogue des vices par certains pères de l'Église, mais aussi auto-affirmation à travers un nouveau lien entre science et technique, une forme de vouloir technique ou de volonté technique qui se développe sur et à l'endroit d'un monde immanentisé. Il faut juste préciser un petit peu les choses, s'il s'agit de revisiter le Moyen-Âge, c'est l'objet de ces journées, ces concepts ne renvoient pas respectivement au Moyen-Âge et au temps moderne. L'absolutisme théologique, c'est-à-dire un concept de Dieu qui fait que celui-ci n'est lié par rien, qu'il peut défaire tout ce qu'il fait à tout moment, etc., ne caractérise pas pour Blumenberg le Moyen-Âge dans son ensemble, mais seulement sa fin. Et la réhabilitation de la curiosité théorique que Blumenberg repère chez de nombreux représentants de la philosophie et de la science moderne commençante ne signifie pas que durant tout le Moyen-Âge et dans la scolastique, la curiosité aurait été simplement condamnée ou considérée comme un vice, même s'il arrive à Blumenberg, effectivement, de parler, par contraste avec la modernité, de la condamnation chrétienne médiévale de la curiosité théorique. Mais Blumenberg documente surtout la façon dont certains pères de l'Église, comme Augustin, Tertullien, etc., ont jugé que la curiosité était un vice, la tentation des tentations, Augustin, ou qu'elle n'était plus de mise après le Christ. Après le Christ, on n'a plus besoin de la curiosité, Tertullien. Et il évoque aussi les réactions discontinues à des prétentions de savoir ou à l'autonomisation de la logique, par exemple, à certains moments du Moyen-Âge. Mais bien évidemment, il fait droit aux contributions de la scolastique aux divers savoirs et à son articulation spécifique du rapport entre connaissances naturelles et théologie. Dans l'ouvrage qu'il a consacré l'an dernier à Hans Blumenberg et autour duquel tournera mon propos d'aujourd'hui, le grand historien allemand de la philosophie médiévale, Kurt Flasch, aborde et discute cette approche par Blumenberg du seuil d'époque moderne. Alors quelques mots généraux d'abord sur l'ouvrage de Kurt Flasch, sobrement intitulé Hans Blumenberg, et long de 620 pages. Il est sous-titré Philosophie in Deutschland, die Jahre 1945-1966. Donc Philosophie en Allemagne, les années 1945-1966. Il est donc en fait consacré aux deux premières décennies de l'œuvre de Blumenberg. Depuis ses premiers écrits juste après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, sur Dostoïevski, sur Pascal, et sous le coup d'Hiroshima, atome moral, jusqu'à la publication de La légitimité des temps modernes en 1966. Et Flasch passe étape par étape, texte par texte, par les thèmes des articles des années 50-60, nature, technique, technicisation, modélisation du cosmos, philosophie de la religion, puis de la première moitié des années 60, métaphore, avec le grand livre, petit mais grand par les effets, paradigme pour une métaphorologie, la poétique, avec les premières contributions de Blumenberg au groupe Poétique und Herméneutique, qu'il a cofondé, et les études consacrées au trio d'auteurs charnières pour penser le changement d'époque et la révolution scientifique moderne, Copernic, Nicolas de Cuse, Galilée. Il n'en manque qu'un, Giordano Bruno. Les grands ouvrages ultérieurs, malheureusement encore non traduits en français, Lebenszeit und Weltzeit, Arbeit am Mythos, ou l'écrit posthume qui a eu une intense réception, Beschreibung des Menschen, heureusement traduit celui-ci, Description de l'homme, ne figurent pas donc dans le livre de Kurt Flasch. On n'a pas à proprement parler à une biographie intellectuelle, puisqu'on s'arrête, si je puis dire, au premier sommet, ou à la première étape de la maturité un peu ce qu'avait fait Georg Lukács en écrivant Der junge Hegel, le jeune Hegel. Cette découpe chronologique a certains effets que j'évoquerai plus tard. Le livre s'ouvre par quelques souvenirs personnels, dont une mémorable conversation avec Blumenberg dans une taverne, d'où il serait apparu que la pensée de l'auteur de la légitimité aurait pris son départ de la rencontre, au fond, de deux expériences fondatrices. Évidemment, c'est une anecdote mythique, en quelque sorte, mais qui a sa signifiance pour parler comme Blumenberg. Quelles expériences ? Donc, d'abord, la découverte dans les facultés catholiques et jésuites où Blumenberg dut étudier en 1939-40, son statut de Halbjude, demi-juif, dans la classification nazie, lui fermant la porte des universités publiques. La lecture de saint Augustin, en particulier du livre 10 des Confessions, où l'on trouve donc la condamnation de la curiosité théorique, ou du moins l'exhortation à développer les sciences de la nature, comme l'astronomie, seulement dans la mesure où elles peuvent s'accorder avec l'interprétation de la Bible et aider à déterminer des aspects de la liturgie, par exemple des moments du calendrier liturgique. Blumenberg se demanda aussitôt combien de temps les Européens avaient pu vivre avec ce type d'interdit théologique. Selon Flash, c'est là une des questions qui a surgi pour Blumenberg. Combien de temps les Européens avaient pu vivre avec cet interdit théologique frappant la curiosité théorique illimitée. Seconde expérience, toujours durant la guerre, en 1942, Blumenberg dut aller travailler dans l'industrie militaire, sous l'effet encore des lois nazies, et il trouva une place dans une entreprise d'équipement des sous-marins en télescope. Là, un patron compréhensif l'envoya à la documentation, où il se plongea, c'est le cas de le dire, dans des ouvrages consacrés à l'optique, et où il se passionna pour l'histoire des techniques optiques de la lunette astronomique au télescope des sous-marins. On retrouvera, croisé au cœur de la légitimité des temps modernes, ces deux thèmes, l'histoire du procès de la curiosité théorique avant sa réhabilitation moderne et l'histoire du développement de l'optique en tant qu'elle a participé d'une remise en cause de la cosmologie antique perpétuée dans le système scolastique. Il y a toutes ces réflexions, bien sûr, sur la découverte d'un invisible intramondain avec non seulement le télescope, mais le microscope. Bien sûr, Flash ne fait pas de cette double expérience la cause unique de la pensée de Blumenberg. Il note le caractère ironique de ce récit d'origine, mais celui-ci n'en est pas moins suggestif, comme le sont pour Blumenberg lui-même, qui, comme vous le savez, a consacré des livres entiers à certaines anecdotes philosophiques, comme le sont les anecdotes philosophiques pour Blumenberg. Selon Flash, donc, Blumenberg avait retiré de ses heures de lecture de la scolastique à Francfort une admiration pour la scolastique, mais aussi une question: comment cette longue tradition avait-elle pu finir ? Flash note, le déclin d'un mouvement si puissant n'a pas pu venir de l'extérieur. Et c'est dans le nominalisme tardif, on l'a beaucoup dit, que Blumenberg verra le mouvement qui aurait porté les idées de la scolastique à leur extrémité, leur offrant ainsi à la fois peut-être un accomplissement et une certaine fin. Comme on va le voir, Flash, et on ne s'en étonnera pas après ce qu'on a entendu jusqu'à maintenant, accumule les critiques en tant qu'historien du Moyen-Âge, développées par d'autres historiens et les siennes propres contre cette interprétation du nominalisme. Il suggère que bien qu'il n'y ait aucune hostilité dans l'analyse de Blumenberg sur le rôle des nominalistes dans la destruction de l'univers de sens scolastique, Blumenberg a endossé à son insu, peut-être le philosophe catholique, j'en suis pas sûr, à son insu, une part des préjugés contre les nominalistes des catholiques et néo-thomistes allemands des années 50. Ces derniers, on l'a rappelé aussi, voyaient en effet dans les nominalistes les destructeurs de la scolastique médiévale, et en raison de l'insistance d'Occam ou d'autres sur la volonté libre ou arbitraire de Dieu, le Willkürgott, comme des prédécesseurs de Luther. Blumenberg aurait également peut-être hérité de Heidegger cette vision qui insiste particulièrement sur la dimension de la volonté ou sur le volontarisme théologico-métaphysique de penseurs du Moyen-Âge tardif comme Dean Scott ou Guillaume d'Ockham. Je reviendrai sur le volontarisme puisque c'est un des thèmes de la critique aussi de Flash. La construction purement chronologique de l'ouvrage de Flash s'attache d'abord aux dissertations ou travaux universitaires de Blumenberg. Dissertations ou travaux restés inédits. La dissertation doctorale de 1947, Beiträge zum Problem der Ursprünglichkeit der mittelalterlichen scholastischen Ontologie, donc contribution au problème de l'originarité de l'ontologie scolastique médiévale. Ursprünglichkeit, originarité, c'est le difficile terme que Flash interroge longuement, notamment pour les liens qu'il dénote du jeune Blumenberg avec la pensée de Heidegger. Puis l'Habilitationsschrift soutenue par Blumenberg à Kiel en 1950, Die Ontologische Distanz. Ici, en fait, la reconstruction du cheminement de Blumenberg se double d'une interrogation qui sert de leitmotiv critique dans l'étude de Kurt Flasch. L'interrogation sur le premier ancrage de Blumenberg, non pas tant dans la phénoménologie de Husserl, que dans sa révision critique et sa refonte complète par Heidegger, y compris pour une approche de l'histoire qui, dès lors, semble toujours excéder ce que Flasch attend d'une histoire positive. À propos de la dissertation de 1947 sur l'ontologie, Flasch note ainsi « Aucun contemporain ne détermine davantage que Heidegger ses conceptions. Le prestige même de l'ontologie dans les années d'immédiate après-guerre venait pour une part, selon Flasch, d'un accord, d'une convergence des heideggeriens et des néoscolastiques. Il me semble que Flasch repère cette imprégnation essentiellement sur les trois versants suivants. Premièrement, la critique du cartésianisme ou du néo-cartésianisme revendiqué par Husserl et qui ferait obstacle, selon Heidegger, repris par le Blumenberg de Die Ontologische Distanz, à sa volonté même de réaccéder aux choses mêmes ou à déployer une approche du phénomène à partir de lui-même. Il y a l'idée que le point de départ dans le Cogito nous fait manquer à Husserl son propre projet de rendre compte du phénomène à partir de lui-même. Deuxièmement, une sorte de réécriture de l'histoire de l'ontologie. Mais l'originalité de cette réécriture par rapport à l'histoire de l'être heideggerienne apparaît néanmoins déjà dans le fait que Blumenberg tienne à défendre justement l'originarité, Ursprünglichkeit, de l'ontologie médiévale, qui ne serait donc pas un simple phénomène de traduction, de dérivation ou de perte par rapport à l'ontologie grecque originelle. Troisièmement, un rapport à l'histoire qui accorde une importance décisive aux époques et aux tournants, même si, là encore, Blumenberg reconfigure entièrement la compréhension de la différence des époques. Il est clair que pour Flasch, ses premiers travaux de Blumenberg sont encore empêtrés dans une approche de l'historicité dont Blumenberg ne se libérera qu'à partir des années 1960. Et encore, semble-t-il, seulement partiellement. Cette première approche de l'historicité hérite de Heidegger un concept d'époque qui, en quelque sorte, surplomberait toute recherche historique ou toute objectivation historique et serait inaccessible, indisponible à toute recherche spécialisée, à toute enquête historiographique, à toute forme d'objectivation. Néanmoins, Flasch observe que, contrairement à Heidegger, Blumenberg ne parle jamais négativement de la discipline historique, de l'historiographie positive, et qu'il entre toujours bien davantage dans le détail, qu'il ouvre considérablement le corpus par rapport à Heidegger, et qu'il mobilise des savoirs différents, l'histoire des sciences, l'histoire des techniques, des métaphores, etc. Quoi qu'il en soit, dans une lettre à Landgraebe, donc ancien assistant de Husserl avec lequel Blumenberg avait étudié, dans une lettre à Landgraebe de 1963 que cite Flasch, Blumenberg se présente expressément comme un Heidegger-Gegner, un adversaire de Heidegger, et la légitimité des temps modernes. Et dans la légitimité des temps modernes, Blumenberg rompt bien avec toute mystique épocale. Le changement d'époque n'est pas décrit comme un destin erratique. Il fait l'objet d'une série d'interrogations méthodiques sur les seuils d'époque, à commencer par une interrogation sur la validité même du concept d'époque. Blumenberg envisage la modernité comme une époque du concept d'époque, époque qui, comme nulle autre, a cherché à se situer elle-même, on l'a rappelé, parmi les époques, et à penser, voire à clamer ce qu'elle avait de nouveau, et il faut interroger les sources de ce pathos de la nouveauté. La méthode construite par Blumenberg est celle, on l'a rappelé, d'une comparaison systématique ou systémique des crises, crise de l'Antiquité tardive, apparition de nouvelles questions au temps de la christianisation qui installe un nouveau système de sens et crise du Moyen-Âge tardif qui donne naissance au temps moderne. Je dirais simplement, faute de temps, quelques mots de la première crise systémique, celle qui voit la fin de l'Antiquité tardive et amorce ou prépare l'époque médiévale. S'appuyant dès ses écrits de 47, il fallait que je le dise, sur Étienne Gilson, également cité dans La légitimité des temps modernes, mais aussi, ce que Flasch ne mentionne pas, sur Adolf von Harnack, Blumenberg accorde un rôle essentiel à Augustin dans ce passage et dans l'inauguration d'un système de sens ou de réponse qui devait structurer le Moyen-Âge. Dans des articles antérieurs à l'apparition de la légitimité, notamment l'article de 1957 sur l'imitation de la nature et l'émergence de l'idée d'homme créateur, Blumenberg avait thématisé le défi qui s'est imposé à la tradition intellectuelle occidentale, celui de construire un système d'interprétation du monde largement hérité de la métaphysique et de la cosmologie grecque, qui intègre une idée hétérogène à la pensée grecque, celle du Dieu créateur biblique et du fiat. Certes, on trouve bien chez Platon, par exemple, l'idée d'un Dieu créateur, le démiurge du Timée, mais si celui-ci construit le cosmos, il le fait en ayant le regard dirigé vers les idées, vers un modèle du monde qui préexiste à sa création sensible par le démiurge. En revanche, le fiat biblique serait une création ex nihilo qui devient ainsi le modèle d'un acte de volonté créateur. Ce nouveau modèle a trois effets secondaires, dont tout le potentiel historique ne sera développé que très tardivement selon Blumenberg. D'abord, il installe une certaine contingence dans l'idée de monde. Le monde a été créé, mais aurait pu ne pas l'être. Surtout, ici, judaïsme et christianisme installent un rapport au temps orienté vers la fin. Ce monde doit finir, peut-être bientôt. Deuxièmement, l'ordre ainsi créé est et reste suspendu à une volonté divine. Troisièmement, ce modèle suscite un immense problème, l'apparition d'une question aiguë que saint Augustin formule avec une particulière netteté. Si Dieu a créé le monde et si Dieu est à la fois bon et tout-puissant, d'où vient le mal ? Je n'ai pas le temps de m'attarder sur cette troisième dimension qui engage une forme ou une tendance de pensée dont les contours sont plus incertains encore que ceux du nominalisme aux yeux de Flash, si bien que celui-ci la laisse quasiment de côté dans son livre, et j'en ferai de même, à savoir la gnose. Gnose, ensemble très flou, et catégorie qui prête à bien des confusions. Mais revenons-en aux deux premiers éléments, la contingence et l'ordre suspendus à la volonté divine. Un point intéressant, sur lequel je passerai vite, de la légitimité des temps modernes, sur la question du Moyen-Âge, et je pense son historicisation de l'eschatologie, soit l'étude de la façon dont l'Église chrétienne a dû réinterpréter la perspective de la fin des temps. Dans les premiers temps du christianisme, les communautés converties attendent une fin des temps imminente, le retour du Christ en gloire, mais celui-ci se faisant attendre, si je puis dire, l'Église en formation développe et diffuse une autre vision du temps. Le délai lui-même, qui nous sépare de la fin, est peu à peu valorisé comme étant proprement l'éon chrétien, l'intérim délimité par la première venue du Christ avant son retour, annonciateur de la fin des temps. S'institutionnalisant, s'ancrant dans la durée, s'appropriant des imaginaires de l'enfer issus de traditions diverses, développant enfin une conception du jugement dernier des âmes individualisée, l'Église chrétienne, au moment de l'Empire romain, puis l'Église médiévale encore, insiste ses fidèles à prier pro mora finis pour l'ajournement de la fin. Se développe alors l'idée d'un temps historique qui n'est plus tout entier tourné vers l'imminence de la fin, mais qui devient l'espace de déploiement du cours de l'Église, de l'Ecclesia militans. À l'idée d'une sécularisation de l'eschatologie, développée par Karl Levitt et Bultmann, Blumenberg oppose aussi ainsi celle d'une sécularisation, au sens cette fois, vous voyez, d'une montée en puissance du monde, sécularisation par l'eschatologie. C'est en ajournant la fin que le monde, le siècle, monte en puissance, prend une épaisseur propre, une durée reconnue comme légitime. La scolastique est en un sens le système de réponse qui est parvenu à intégrer et à contenir les éléments déstabilisateurs de la contingence et de la volonté libre de Dieu dans une unité métaphysique, théologique et cosmologique cohérente et solide. Thomas pense l'ordre et sauve l'essentiel du rationalisme aristotélicien, tout en refusant la prémisse d'un cosmos éternel et en maintenant un certain droit de la curiosité naturelle et scientifique dans un cadre qui permet le développement d'une science de la nature avant de reconduire l'intellect de la création au créateur. Mais selon Blumenberg, le nominalisme tardif a radicalisé la théologie de la volonté et de la toute-puissance divine et a mis en crise ce système de réponse. Nous en arrivons au récit ou à ce que Kurt Flash présente comme la Vulgate de Blumenberg. Alors, est-ce que c'est la Vulgate sur Blumenberg ou la Vulgate de Blumenberg lui-même ? Je crois qu'il y a une petite ambiguïté textuelle chez Flash. La caractérisation de la modernité naissante comme auto-affirmation contre l'absolutisme théologique. À ce propos, Kurt Flash note, cette formule, prise comme principe heuristique, ouvre à une série de phénomènes historiques du XIVe au XVIe siècle. Fin de citation. On trouve en effet, sous différentes expressions, une tendance à déployer les conséquences de la potentia absoluta divine au point où ce Dieu maximum cesse d'être une puissance de garantie pour la rationalité humaine qu'elle dépasse absolument. Et cette exaltation d'un absolutisme théologique a pu susciter le développement d'une rationalité pour laquelle, en quelque sorte, Dieu ne s'occupe pas de nous et pour laquelle donc on peut développer sur un plan autonome des savoirs et des garanties. Le problème pour Flash et comme pour beaucoup d'historiens, c'est que Blumenberg prend extensivement appui sur l'œuvre de Guillaume d'Ockham et selon la lecture qu'il propose de textes alors difficiles à trouver, hein, il faut le préciser, Ockham aurait tiré des conséquences drastiques de l'idée de Dieu comme potentia absoluta en la dissociant de la potentia ordinata. Il réactive ainsi une question qu'on trouvait déjà largement explorée par la scolastique, celle de l'immédiateté de l'action de la cause première divine. Le problème général est de savoir sur quel mode Dieu exerce sa causalité dans l'ordre des choses après la création. Si Dieu est tout-puissant, il peut à tout moment intervenir pour faire suivre d'une cause un nouvel effet. Cette possibilité est bien connue, c'est le miracle. Mais pas seulement. Si l'on admet qu'il peut s'agir d'une possibilité permanente liée à la volonté libre de Dieu, on comprend que la volonté divine n'est pas ce qui garantit l'ordre et la régularité causale des phénomènes, mais ce qui la rend précaire. De même, même s'il y a une théorie positive de l'intuition et de ses degrés de vérité, j'y reviendrai, rien ne garantit que ma perception sensible ne corresponde pas à ce que je crois percevoir, puisque Dieu peut faire que les signes sensibles ne correspondent plus aux choses auxquelles il renvoyait. La métaphysique, Olivier Boulnois a cité, je crois, cette formule, note Blumenberg, risque ici de rendre impossible la physique. De même, rien de ce que peut faire la créature n'a d'effet assuré pour la grâce de Dieu. On peut citer ici un passage d'Occam tiré du commentaire des sentences de Pierre Lombard. Rien de ce qui est dans la créature ne peut être cause de prédestination ou de réprobation. Par tous ces bords, Blumenberg veut converger vers une compréhension de la fin du Moyen-Âge dominée par une autodestruction de la théologie par maximisation de ses positions. Ce Dieu trop absolu cesse d'être ce qui garantit l'ordre du savoir et il est indifférent à l'action humaine. Dans ce théocentrisme accompli, Dieu devient un principe de suprême déstabilisation ou s'absente. Et c'est ici que l'ensemble des hypothèses extrêmes d'Occam va devenir le point de départ d'un désir de trouver des fondements neufs, un point de certitude sur lequel tout refonder pour surmonter toutes ces déstabilisations tirées du concept même de la volonté libre d'un Dieu tout-puissant. Face au Dieu maximal devenu pragmatiquement presque identique à un Dieu mort, on l'a cité je crois tout à l'heure, note Blumenberg, l'auto-affirmation humaine devient légitime. L'absolutisme théologique a suscité par contre-coup cette auto-affirmation. Ce scénario brillant a fasciné beaucoup de lecteurs, si je puis me permettre, moi le premier. Mais selon Flash, il a été affirmé par tous les historiens de la pensée médiévale qui se sont attachés à démonter ce que l'un d'eux, Wolfgang Hübner, n'a pas hésité à qualifier de légende. Plus compréhensif mais non moins critique sur le fond, Flash écrit « Quand Blumenberg caractérisa le dieu du dominalisme d'une façon exagérée, ce fut surtout une stimulation avec son intelligente problématique pour revenir aux sources textuelles. » Et Flash note qu'il a d'ailleurs lui-même été stimulé pour revenir aux sources et d'ailleurs aussi pour les éditer. Blumenberg mésinterpréta certains ensembles de problèmes de texte, alors encore difficilement atteignables et pour partie indisponibles. Je n'entre pas ici, mais Flash le fait très minutieusement, dans les très rares éditions d'Occam sur lesquelles Blumenberg pouvait mettre la main et qui dataient pour la plupart de la fin du XVe siècle. Donc ce n'était pas des éditions scientifiques de la dernière fraîcheur. Et nous disposons évidemment aujourd'hui de ces textes, établis d'ailleurs par nos collègues. La recherche historique donc a progressé, donnant une autre image du nominalisme que celle qui construisit. Son concept de nominalisme se rapportait presque exclusivement à Occam, notre Flash, alors que ce qui n'est pas tout à fait juste, mais alors que le nominalisme fut une école largement ramifiée, traversée de conflits internes, comme les études de Paul Vigneault l'ont montré, cette fois dès les années 30. Wolfgang Hübner et Jürgen Goldstein ont aussi observé explicitement contre la lecture de Blumenberg que si l'on cherche une forme de désassurance radicale par une volonté divine insondable et arbitraire, c'est plutôt du côté de Luther qu'on la trouvera, mais c'est un point qui a été problématisé par Philippe à l'instant. Et en revanche, chez Occam, sans la volonté libre de l'homme, Dieu ne pourrait pas le sauver. Il est vrai qu'Occam pose bien que rien de ce que fait la créature ne peut obliger Dieu à le sauver et que sa grâce reste tout à fait insondable. Mais en cela, selon Flash, Occam ne fait que répéter une sorte d'orthodoxie sur la toute-puissance divine que l'on trouvait déjà chez Paul ou chez Augustin. Dieu accorde la grâce à qui il veut. Ses critères restent inconnus. Questiones ad simplicianum 1, 2. En outre, je résume ici les pages 500 et suivantes du livre de Flash, Occam n'était pas sceptique, il a transformé l'idée de vérité en y voyant non pas une propriété de l'être, mais une propriété des énoncés. Ça n'excluait nullement que l'homme ait une capacité à atteindre la vérité ainsi redéfinie. Flash reconnaît que la conscience exacerbée de la contingence et la radicale individualisation de la réalité qu'on trouve chez Occam formaient de profondes entailles, dit-il, dans la pensée du Moyen-Âge. L'individualisation radicale et la conscience de la contingence. Mais la dramatisation de Blumenberg, c'est aussi un terme qu'utilise Jürgen Goldstein, ne correspond pas à l'aspect de formation productive de théorie avec un penchant pour les abstractions, qui fait que les premières décennies du XIVe siècle manifestaient aussi une forme d'optimisme du savoir et de la connaissance. Pour Occam, la pensée de la potentia absoluta ne met en aucun cas la connaissance hors service. Le fait que Dieu ne soit pas soumis au principe de contradiction ne ruine pas la valeur des pensées vraies, de la logique, etc. J'ai peur d'être un peu de long. Il faudrait, je pense, pour enrichir le débat et le compliquer un peu, intégrer ici un ouvrage très important de Blumenberg qui a été peu cité, c'est « Die Genesis der Copernicanischen Welt », la genèse du monde copernicien, car il me semble que dans cet écrit sur l'ouverture de la possibilité d'un Copernic, les nominalistes n'ont pas tout à fait le même rôle que dans le livre sur la légitimité. J'en donne juste une indication. Blumenberg suit un film, d'ailleurs peut-être inspiré par Pierre Duhem, la genèse progressive au Moyen-Âge du principe de la conservation du mouvement, qui constituera véritablement pour Blumenberg le principe d'une rationalité nouvelle, reconfigurant l'ensemble des savoirs, y compris la philosophie politique, autour de l'idée d'autoconservation et de persévérance dans l'être. C'est là, autant que l'auto-affirmation, Selbstbehauptung, l'autre principe majeur pour Blumenberg, l'autre très moderne, majeur, la Selbsterhaltung, l'autoconservation. Un principe, la persévérance de soi, l'autoconservation, qui diffuse dans toute la philosophie, jusque dans les temps modernes, chez Spinoza, Hobbes, etc., avec des effets considérables. Dans la jeunesse du monde copernicien, donc, Blumenberg étudie les premières élaborations, au XIIIe et XIVe siècle, du problème qui naît en quelque sorte à l'intersection de la physique et de la théologie. La physique aristotélicienne ne connaissant pas le principe de conservation du mouvement, il faut expliquer le mouvement par un facteur causal permanent. Mais la théologie s'empare d'un problème exégétique qui apparaît dès les premières pages de la Bible. Dans la Genèse, il est dit qu'au septième jour, Dieu se reposa. Jean Buridan, et revoilà le nominalisme, un autre nominalisme, remarque que les réalisations des jours précédents ne s'effondrent pas pour autant. Il y a eu donc Dieu se repose, mais tout ne s'effondre pas quand Dieu se repose. Buridan ouvrait ainsi une brèche dans le système d'explication par la causalité divine, toujours en action, au profit d'une thèse qu'on pourrait dire d'autonomie relative du monde, qu'il développe aussi dans sa théorie de l'impetus, c'est-à-dire du mouvement qui meut le mobile dans la direction où il se meut, mais sans que ce mouvement soit directement le fait d'un moteur. Cette évocation du rôle d'un autre nominaliste montre qu'on ne peut pas s'en tenir chez Blumenberg lui-même à l'association du nominalisme seulement avec une doctrine radicale de la toute-puissance divine, et que, contrairement à ce que dit Kurt Flasch, Blumenberg ne méconnaissait pas la diversité interne du dit mouvement nominaliste, même si là aussi certaines formules où le nominalisme est en position de sujet le laissent parfois penser. Je crois que Blumenberg est aussi entraîné par son écriture en quelque sorte très narrative, c'est quelqu'un qui aime raconter l'histoire des formes de pensée, et son goût pour ce que Wolfgang Hübner appelle des logomachies idéales. Donc on a le nominaliste contre... voilà. Pour conclure sur ce point, avant de conclure vraiment, l'interprétation d'Occam dans la légitimité semble bien jugée intenable par les historiens de la pensée médiévale. Reste à savoir si cela infirme l'hypothèse interprétative générale, celle d'un certain absolutisme théologique qui aurait négativement préparé le terrain au désir de chercher des fondements neufs sur un autre terrain, tel que Descartes le manifestera avec éclat. Il faudrait ici déplacer le regard vers la fin de l'argument, reprendre aussi, entre autres éléments, les enquêtes évoquées et prolongées par Blumenberg, mais par énormément d'autres travaux aujourd'hui. Là aussi, les choses sont énormément enrichies sur le rapport de Descartes à la scolastique tardive et au nominalisme. Par exemple, sur le rapport entre le malin génie, le dieu trompeur, et la figure, sans doute post-occamienne, d'une intuition qui ne correspondait pas aux choses qu'elle intuitionne, etc. C'est aussi un vieil argument sceptique que reprend Descartes, bien évidemment. Je noterai qu'à cet égard, si cette perspective de Blumenberg sur les reprises et transformations par Descartes de la question des questions de la scolastique tardive est familière à l'historien de la philosophie aujourd'hui, elle s'oppose à une certaine mythification de Descartes qui prend au pied de la lettre sa prétention au commencement absolu, une vision qui tiendrait son discours dans la méditation métaphysique pour le déploiement d'un doute et d'hypothèses qui seraient le fruit du monologue d'un sujet absolu, comme dit Blumenberg, alors que Descartes hérite plutôt de questions historiquement déterminées dont il efface les traces. Or, je crois que c'est important, pour quelle raison ? Parce que Blumenberg s'intéresse aussi à la façon dont ces figures, Descartes, mais aussi bien et surtout Copernic, Galilée, Luther, ont été stylisées ou transformées en symboles, dans le prolongement parfois d'une auto-stylisation, et en rencontrant à cet égard ce que Blumenberg appelle et thématise dans d'autres textes un besoin de prégnance, c'est-à-dire l'attente par la conscience historique de figures bien dessinées, d'éléments ou d'hommes qui se détachent, ou d'un événement où là, ça y est, on tient le changement d'époque. C'est Luther et son petit marteau, c'est une des figures, c'est Descartes, etc. On ne veut donc pas d'un continuum indifférent. La conscience historique cherche des repères, des dates, des symboles, des ruptures. C'est ici tout le problème de la significativité, Bedeutsamkeit, comme besoin anthropologique qu'il faut déployer. Et c'est, car dans cette perspective, ce dont il est question avec les époques, ce n'est pas seulement d'un instrument heuristique pour les historiens professionnels, ce dont il est question avec les époques, c'est aussi d'une donation de sens qui sert à une auto-interprétation des individus, à la question, y compris des non-philosophes et des non-historiens, à la question « qui sommes-nous, historiquement parlant ?» Alors bien sûr, il ne s'agit pas d'opposer d'un côté une histoire positive démystificatrice et de l'autre une philosophie de la conscience historique, de la condition historique tendant vers le mythe. Ce que Blumenberg appelle le zèle historique et érudit qui dissout les figures mythiques ne doit pas, pour Blumenberg, être rejeté. Au contraire, il est lui-même un représentant de ce zèle quand il montre, par exemple, dans Die Genesis der Copernicanischen Welt, combien la pensée de Copernic s'enracine dans le Moyen-Âge et a des motifs qu'il qualifie de médiévaux. Rendre mieux compte du mouvement des astres pour glorifier la raison et par là l'entendement divin, etc. Descartes lui-même, on l'a vu, est resitué dans son rapport à des questions reçues de la scolastique tardive. Mais il faut aussi comprendre, pour Blumenberg, la multiplicité des rapports à l'histoire, si celle-ci n'est pas la seule propriété des historiens, mais aussi un lieu d'investissement symbolique, un lieu de figuration et de projection mythique, de contraste polémique et de projet. Il faut comprendre, en particulier, comment la révolution copernicienne a été métaphorisée en événement historique par excellence, déplaçant l'homme du centre de l'univers, mais constituant en même temps une réalisation extraordinaire de la raison humaine. Kurt Flasch s'agace du fait que Blumenberg ait maintenu une certaine distinction entre l'histoire comme discipline, historie, et un autre discours philosophique, voire existentiel, où le passé communique avec le futur, Geschichte. Peut-être plus précisément, Flasch s'agace qu'il n'en ait pas élucidé l'articulation. L'articulation entre ces niveaux reste peu précisée, et la hantise de Kurt Flasch ressurgit, on retombe dans Heidegger. On retombe dans ces deux niveaux de l'historicité comme objectivation et l'historicité presque tragique qu'on trouve dans Sein und Zeit, la génération, le combat, etc. Est-ce vraiment le cas? Il faut revenir en conclusion, en adaptant à notre tour un regard peut-être critique sur le livre de Flasch, sur les limites de son approche, et je conclue. Donc, Blumenberg ne s'intéresse pas au Moyen-Âge pour en développer une étude érudite qui serait à elle-même sa propre fin. Blumenberg s'intéresse au Moyen-Âge pour penser les temps modernes, et réciproquement le Moyen-Âge, autrement que ne le faisait la philosophie de son temps, en rendant compte du point de départ des temps modernes. Il entend saisir ce qu'il appelle dans les paradigmes, pour une métaphorologie, une transformation dans les horizons de sens, comme il cherche aussi à le faire dans sa métaphorologie, justement, en étudiant les transformations d'une métaphore, comme la métaphore de la lumière de la vérité, par exemple. Notons d'ailleurs que son apport théorique le plus important, pour Kurt Flasch, se situe dans la métaphorologie. Pour Kurt Flasch, Blumenberg, plus que le penseur du Moyen-Âge, est le penseur de cette méthode qui permet de reparcourir à nouveau frais la tradition entière en étudiant les transformations de sens des métaphores. Mais la valeur de Blumenberg comme philosophe en Allemagne, dans l'après-guerre, se mesurait aussi, pour Flasch, à l'ensemble des écarts qu'il a su construire peu à peu par rapport à un champ intellectuel d'après-guerre encore sourdement dominé par d'anciens soutiens du nazisme, largement anti-modernes, Heidegger, Carl Schmitt, mais aussi Gehlen, Rothacker. Chaque fois, Blumenberg a dû définir son rapport à ces figures, et la légitimité des temps modernes fut aussi son acte d'émancipation, et peut-être l'acte d'émancipation de la philosophie allemande d'après-guerre vis-à-vis de la Kulturkritik anti-moderne qui continuait largement d'y régner. Faut-il dire alors que Blumenberg aurait eu raison, philosophiquement et politiquement, d'entreprendre de défendre la légitimité des temps modernes, mais qu'il se serait historiquement fourvoyé dans sa représentation de la sortie du Moyen-Âge. Dans une formule déjà citée, Flasch suggère que le schéma de l'absolutisme théologique et de l'auto-affirmation humaine était un principe heuristique qui permet de saisir certains phénomènes, mais que Blumenberg aurait eu le tort d'en faire, je cite, une caractéristique générale d'une époque. Il serait alors retombé dans la tendance de Husserl et de Heidegger à déplacer le concept ontologiquement fixé d'essence au mouvement historique. C'est-à-dire que Blumenberg aurait le tort, en fait, d'essayer de penser l'essence d'une époque. Essayer de dégager l'essence de l'époque, c'est l'illusion heideggerienne et husserlienne que Blumenberg aurait reconduite. Dans un chapitre final intitulé Gegenlesen, relecture, Flasch note que le lecteur de Blumenberg, en particulier de la légitimité, peut opposer les analyses de détails microhistoriques aux thèses de grande dimension. Mais ces analyses de détails auraient-elles le même intérêt si elles ne s'inséraient pas dans une interprétation historique plus vaste. Je finis vraiment en quelques phrases. L'ouvrage de Flash est animé par un mouvement contradictoire. Il veut souligner l'originalité de Blumenberg, mais il ne cesse de le réinscrire dans une dépendance fondamentale à l'égard de Husserl et de Heidegger. Il accorde une place énorme à des travaux que Blumenberg n'a pas publiés, comme sa dissertation doctorale et son Habilitation de Schrift, tout en y repérant une sorte de péché originel que Blumenberg ne serait jamais parvenu à surmonter tout à fait, la détermination première de sa pensée par Heidegger, dont Flash ne cesse de retrouver les traces, encore dans la métaphorologie et jusque dans la légitimité des temps modernes, malgré toutes les charges rappelées tout à l'heure, quand Blumenberg semble persister à vouloir saisir une dynamique d'époque, quelque chose qui diffère d'un usage purement nominal et conventionnel du découpage de l'histoire en époque. Dans un compte-rendu du livre de Flash, paru dans la Frankfurter Allgemeine Zeitung, Manfred Sommer déplore cette façon de constituer en matrice de la pensée de Blumenberg des travaux universitaires de jeunesse que Blumenberg n'a jamais revendiqué, ni voulu, publié, et le fait qu'il s'arrête, en somme, là où la pensée propre de Blumenberg commence véritablement à déployer toute son originalité, lorsqu'elle noue ensemble histoire des concepts, étude des métaphores, lorsqu'elle met en lumière des processus de symbolisation, lorsqu'elle interroge le travail du mythe et ses effets, jusque dans la philosophie. Et c'est cette ampleur et cette originalité thématique qui font toute l'importance de Blumenberg et qui l'inscrivent assurément dans la filiation critique de Husserl et de Heidegger, mais aussi de Cassirer et de Freud. Qu'est-ce qui intéressait Blumenberg dans le changement d'époque, voire dans l'étude d'une période précédente, lointaine ? C'était peut-être comme un avocat de plaider une cause, plus que de documenter un passé, même si pour ce faire, il est entré évidemment dans un grand détail historique, avec une passion, je dirais, pour les controverses historiques. La légitimité des temps modernes cherche à combattre une rhétorique substantialiste et décliniste, des présupposés, à contester des catégories, qui, comme l'étymologie l'indique, sont souvent des accusations, à proposer une autre méthode pour mesurer un changement d'époque, d'autres schémas. Il cherche à lancer de nouveaux noms dans la problématisation du changement d'époque, de nouveaux acteurs, peut-être une autre légende. L'affaire a-t-elle été gagnée ou perdue ? En tout cas, Blumenberg est passé à autre chose, après, dans les deux dernières décennies de son œuvre. Il est passé à l'examen et à la révision d'un autre procès en illégitimité. Celui intenté cette fois par une bonne part de la philosophie allemande à l'encontre de l'anthropologie. Et c'est ici quelque chose qui sort du cadre du livre de Flash, et sans doute de celui de cette journée. Je m'en tiens donc là et je vous remercie pour votre attention.